12 interviews, 2 jours, un festival, sais-tu ? Voilà. Vous êtes en partance pour Sais-tu avec l'artiste et chef régisseur Thomas Delahaye.
La 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 la.
Aujourd'hui, en binôme avec Toto, je viens vous chercher à la gare de Quimper pour vous emmener dans la ferme de Morgane Coidou à Élian. Assis ou assise sur une banquette de 3, la navette démarre. À l'avant, nous discutons. Thomas est très enthousiaste et moi, très fière d'avoir réussi à l'entraîner dans ce trajet. Vous, vous écoutez d'une oreille distraite et de l'autre, vous observez la campagne qui défile. Les nuances de vert, marron et jaune. Un tracteur nous ralentit. Êtes-vous déjà venu à Sais-tu, je vous demande ? Connaissez-vous des artistes du festival ? En tout cas, bienvenue. Sais-tu, c'est faire collectif pour un temps. Organisateurs, artistes, bénévoles viennent quelques jours en amont. Ils travaillent, mangent, campent et vivent ensemble, chacun à leur rythme, à celui du bruit des animaux et de la météo. Nous sommes samedi midi, une nouvelle phase commence. On sent l'excitation de l'avant-spectacle. Les coulisses se referment et place aux propositions artistiques. Vous allez voir, on va passer un moment étrangement agréable. La nuit, il fera froid, le midi, on mangera bien. Et surtout, on verra plein de choses dépaysantes et réconfortantes. Mais, avant de sortir se mêler à la foule, écoutons Thomas Delahaye nous parler de lui et de son lien à Sais-tu.
Alors, je m'appelle Thomas Delahaye, je suis artiste. Et je suis dans Sais-tu la personne qui prend en charge les aspects plus techniques du festival.
C'est un beau métier que d'apprendre à m'approcher de toi, qui cherche doucement à t'approcher de toi. C'est un beau métier que d'apprendre à porter les graines jusqu'aux moissons, car les blés se réchaufferont d'un pain qui réchauffera le monde que tu apportes aux enfants. Quand doucement tu cherches à t'approcher de toi. Extrait de « Quand la rivière se souvient de la source » d'Yvon Lemaine.
Est-ce que tu peux un petit peu raconter comment t'en es venu à participer à ce festival? Depuis quand tu travailles pour Sais-tu?
Moi j'adore mon histoire. J'étais invité comme artiste pour la première édition du festival Sais-tu. Par Marie et Morgane. Évidemment, ce genre de projet, déjà, j'ai quand même énormément d'affinités depuis, je pense, toujours avec ce genre de projet collectif où on va se réunir entre artistes et célébrer quelque chose et montrer nos travaux et en parler. Mais il s'est passé quelque chose de complètement formidable. C'est que j'ai rencontré d'autres artistes adorables. J'ai adoré les échanges qui se sont passé à ce moment-là. Et comme j'ai, c'est un peu ma maladie, je me suis retrouvé à aider d'autres artistes techniquement. Et puis, parce qu'il n'y avait personne... chaque artiste était indépendant, on va dire, sur cette première édition. Et on s'est tous vachement aidés. Enfin, les autres artistes sont venus m'aider à planter des piquets. Vu que j'avais pas mal aidé pour l'installation des autres artistes, Marie et Morgane, dès la seconde édition, m'ont invité à remplir cette fonction de responsable technique du festival.
Et comment t'as reçu cette invitation ?
Pas mal de plaisir et d'envie de faire partie de cette chose-là.
T'avais déjà été technicien ?
Alors, je suis artiste, mais je ne suis pas particulièrement technicien. Par contre, j'aide beaucoup techniquement.
Est-ce que tu peux décrire un petit peu peut-être cette manière que tu as d'aider les artistes à Sais-tu ?
Donc, Assez-tu particulièrement parce que c'est particulier, Assez-tu. C'est quand même une temporalité, je trouve, qui est une forte contrainte, puisque bon, même si maintenant le temps passé avec les artistes a tendance à s'étendre avec les nouvelles envies de l'équipe du festival de produire des pièces, le temps, c'est quand même une semaine avec des artistes que je connais, que je rencontre pour la plupart sur le festival. Enfin, c'est même pas une semaine, c'est 5 jours. C'est peu de temps pour se rencontrer, pour discuter. Donc, souvent, je prends contact avec les artistes avant, quand même pour parler un peu de leurs envies et leurs projets. Mais la particularité de Sais-tu aussi, c'est que les artistes viennent et s'ils ont envie de changer d'idée le jeudi soir et pour faire une représentation le samedi, on est OK. Enfin, on se doit d'être OK. C'est pas juste on est OK. On met tout en place pour être d'accord avec le changement d'idée. Donc du coup, ça demande à être assez flexible. Du coup, ça demande pas mal d'être inventif. Et donc du coup, je dirais que c'est pas forcément ma manière d'aider les artistes, mais plutôt une manière collective d'aider les artistes. Où donc avec moi travaillent déjà 2 personnes, Rémi et Coralie. Eux aussi font partie de cette inventivité, je pense, dans l'accompagnement des artistes. Les artistes arrivent avec des envies. Bon, bah, moi, j'y connais strictement rien en soudure. L'année où Élise Caron a besoin de soudure, bon, bah, c'est Joachim aussi qui est dans l'équipe depuis quelques années, qui rejoint lui plutôt pour la partie week-end, qui ramène son poste à souder. C'est Rémi qui va accompagner Élise dans la construction de sa sculpture et dans l'opération technique de soudure. Mais bon, c'est toujours ça, en fait. C'est un travail collectif et qui parfois même sort simplement de l'équipe technique. Enfin, voilà, c'est un peu ça, le dispositif d'accompagnement technique à Sais-tu, je dirais.
Mais d'ailleurs, Coralie, Rémi et Joachim, donc ceux qui font partie de ton équipe de régie, c'est aussi des artistes, non ?
Alors oui.
Est-ce que tu crois que ça fait une particularité d'accompagnement ou ça donne aussi quelque chose de différent d'avoir une équipe régie où c'est tous des artistes ?
Alors oui, je mettrais pas forcément, je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, enfin, je reconnais évidemment la valeur de réels techniciens dont c'est la profession, et c'est pour ça que je dis que moi je me sens pas de technicien. Dans le cadre de Sais-tu, ça permet la flexibilité et c'est l'accompagnement technique, je pense, le plus approprié à Sais-tu. On se pose pas trop les questions de est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est possible, est-ce que ça se fait, on se dit on le fait. Mais en tout cas, dans Sais-tu, cette équipe d'artistes permet beaucoup de choses. Et peut-être aussi rassure quelque part des fois les artistes qui arrivent avec des formes dont ils ne sont pas forcément sûrs. Je pense que le fait que personne ne soit sûr de rien rassure. Je ne sais pas si c'est une bonne équation, mais j'ai l'impression de le voir en tout cas.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trempent et coûtent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer.
Est-ce que cette insécurité, enfin peut-être insécurité c'est pas le bon mot, mais le fait que ce flottement et cette flexibilité, vous arrivez à la garder au fil des années
Alors ça, c'est un vrai sujet, de questionnement pour moi, et pour toute l'équipe. C'est dur de garder la souplesse. Je pense que n'importe quel corps le sait, mais le corps collectif de Sais-tu le sait particulièrement. On a tendance à se crisper et à prendre des habitudes corporelles. On arrive, on s'installe maintenant d'une manière plus facile, plus similaire aux années passées. On arrive, on met des barnums, on met des tables, on sait que les artistes ont besoin de tables pour travailler. On ne se demande pas s'ils préféreraient travailler sur des tabourets aujourd'hui, parce qu'on a vu plusieurs artistes travailler sur des tables. Ça peut paraître un exemple hyper bizarre, mais je le trouve assez pertinent. On se pose de moins en moins de questions. Et je pense que c'est un exercice constant de devoir garder cette flexibilité. Et je pense aussi que ça passe par les nouveaux regards, les nouveaux visages dans l'équipe de CETU.
Et est-ce que toi, ta place au sein de l'équipe CETU, elle a un peu changé ?
Ma place change comme la place de tout le monde change. Après, c'est un changement. J'aurais plutôt tendance à parler de glissement. Au bout de, quand dans le même contexte, sur le même terrain, on accueille en quelques années seulement plus de 60 artistes, comme je disais. Je change. Mon regard change sur l'art, mon regard change sur les artistes, mon regard change sur les performances même qui sont données à CETU, mon regard change sur le terrain, et du coup ma place aussi dans l'équipe change.
Est-ce que tu peux un peu décrire comment ton regard sur la performance a changé ?
Ça, c'est pas facile, décrire le changement d'un regard.
Ou ta compréhension de la performance, est-ce qu'elle a changé au fur et à mesure des années ?
Je sais pas si c'est une compréhension ou un regard, mais en tout cas, plutôt, je suis fan de plein de trucs, hein, je vais encore dire je suis fan de... je suis fan de définition. Donc du coup, j'adore... je pense que mon envie aussi, par rapport à ta question de tout à l'heure, pourquoi... comment je prends l'invitation de CETU et qu'est-ce que ça provoque en moi, une curiosité déjà énorme. Je me dis, ah ouais, enfin, je vais pouvoir aller définir quelque chose, définir qu'est-ce que c'est la performance aujourd'hui, pour moi et pour d'autres artistes et pour un groupe. Du coup, je pense que c'est ça qui progresse d'année en année. Ça nourrit une sorte de définition actuelle, vivante, de ce qu'est la performance. Mais vraiment, j'aurais envie de dire tout médium confondu. Par contre, tous partagent ce même amour du vivant, de l'expérimentation, du risque.
Est-ce que toi, en tant que du coup régisseur là sur CETU, tu peux aussi décrire un petit peu comment tu arrives techniquement à accompagner ces performances en plein air ? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu dois installer dehors ?
Mais c'est vrai que c'est pour ça que je ne me considère pas aussi comme technicien. C'est parce que je pense que ce que j'amène le plus, c'est des questions. Donc c'est pour ça que je me place plus en tant qu'artiste. Enfin, comment on arrive à faire se rencontrer l'espace de CETU ? Et les œuvres des artistes, je pense que c'est plus des questions que je pose. Et puis ensuite, y a une partie des questions qui ne sont pas à moi de répondre. Je pense qu'ils sont aux artistes de répondre. Et puis une partie des questions qui sont à moi de répondre. Je dispose d'un parc matériel qui n'est pas, le parc matériel le plus riche qu'on peut trouver dans le milieu de la culture. J'avais envie de dire pauvre aussi, mais ce n'est pas dans un mauvais sens. C'est justement assez humble. Peut-être que c'est le bon mot. C'est, matériellement, c'est très humble. Il y a pas de...
Mais ça permet du coup de créer ailleurs quelque chose.
Voilà, ça permet, je pense, de se concentrer plus sur des propositions que sur des dispositifs techniques. Ce qui parfois, je pense, en art, dans le spectacle vivant comme dans les arts visuels, des fois fait pêcher des projets. Et je pense que dans la performance, en tout cas, l'esthétique, CETU participe à certaine définition esthétique. Je pense qu'il y a, il y a de ça, de éviter trop de questions. Je repense à l'artiste Audrey Glaize qui, en arrivant, parle d'un, tout un dispositif technique et puis qui, au fur et à mesure, en discutant vraiment, en discutant le lieu et la technique, se défait au fur et à mesure de la semaine de toutes ces contraintes pour arriver à une forme performative qui lui convient mieux. Elle enlève des choses à penser, elle enlève la technique à penser. Peut-être que c'est ça, mon travail, c'est de disparaître le plus possible. Enfin, je sais pas.
Est-ce que ça permet aussi aux artistes de se concentrer un peu plus sur le territoire?
Ça, il faudrait le demander aux artistes, parce que du coup, je sais pas. Je pense que je cherche ça, moi. Mais ça, je pense que c'est, ça dépasse largement ma simple tâche. C'est que je cherche à... Parce que c'est peut-être des questions que je me pose moi aussi, en fait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de prendre des artistes, peu importe, et de les mettre dans une ferme et que ça fasse de l'art? Donc du coup, chaque année, je repose la question à des artistes. Donc oui, je pense qu'ils se posent ces questions-là, forcément. Enfin, ils se le posent d'eux-mêmes parce que c'est aussi leur travail, je pense. Mais ils se le posent d'autant plus à Setu parce qu'on les y invite. On les y invite à penser le paysage, on les invite à penser le territoire dans tout ce que ça représente comme concept. Enfin, voilà.
Est-ce qu'il y a des zones du festival qui sont... enfin, que les artistes préfèrent ?
Ça, oui. Mais c'est aussi une question qu'on se pose. C'est que en fait, on se demande, moi, comme d'ailleurs l'équipe de programmation, si ce n'est pas nous qui les poussons finalement dans certaines zones, puisque c'est vrai que ça se répète. Mais après, il y a aussi des... Bon, après, comme on est artiste, on sait le voir aussi, je pense. Il y a des endroits qui sont particulièrement attirants dans ce domaine. Dans le domaine, je parle géographique. Hein. Forcément, un fond de rivière, un lit de rivière au fond de la forêt, c'est invitant. Une ligne, une courbe assez parfaitement dessinée d'un haut de colline, enfin d'une collinette, je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça une colline, mais avec en arrière-plan une vallée et une forêt et des bois et des champs, un peu bocageux comme ça derrière.
Dès le matin, par mes grandes routes coutumières qui traversent champs et vergers, je suis parti clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où, je vais, je suis heureux, c'est fête et joie en ma poitrine, que m'importe droits et doctrines, le caillou sonne et lui sous mes talons poudreux. Pour la première fois, je vois des vents vermeils briller dans la mer des branchages. Mon âme humaine n'a point d'âge, tout est jeune, tout est nouveau sous le soleil. Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent, je me repose et je repars avec mon guide le hasard par les sentiers sous bois dont je mâche les feuilles. J'aime mes yeux, mes mains, mes bras, ma chair, mon torse et mes cheveux amples et blonds. Par mes poumons, boire l'espace entier pour en gonfler ma force. Et je voudrais, par mes poumons, boire l'espace entier pour en gonfler ma force.
Est-ce qu'il y a un artiste ou une proposition qui t'a étonné par le choix de l'emplacement ?
Je ne suis pas souvent surpris par le choix des artistes, puisque je m'y prépare. Mais parfois, je suis surpris par ce que moi, je vais proposer comme solution technique. Je dirais plus ça. Donc, finalement, je suis surpris par l'emplacement aussi. Ah oui, pas de souci. Oui, non, mais tu vas être au fond de la forêt. Oui, oui, pas de souci. Tu veux sonoriser une piste MP3, pas de souci. Sauf que j'oublie que en fait, j'ai pas du tout les moyens techniques d'amener de l'électricité dans la forêt. Que en fait, il faut que je cours avec une enceinte sur batterie assez lourde. Enfin, voilà. C'est, ce genre de choses, ouais, peuvent me surprendre après que je sois surpris par des propositions artistiques. Oui, ça évidemment, c'est parce que je me dis, mais les artistes sont toujours plus fous que ce que je m'attends à ce qu'ils soient. Comme je pense à Arthur Chambry, qui il pleut et il veut quand même suspendre des litres, des litres d'eau colorée dans un arbre pour se faire arroser alors qu'il pleut. Voilà, ça, c'est ce genre de proposition technique où du coup Rémi a passé quelques heures sous la pluie à accrocher des sacs d'eau dans les arbres. Oui, je pense que ça surprend toujours.
C'est une aventure, quoi, d'accompagner les artistes.
Ah, je pense que c'est une aventure que j'ai l'impression que toute l'équipe vit avec un immense plaisir chaque année, quoi. Et plaisir renouvelé, justement, par ces surprises, je pense aussi.
Alors que j'attendais par un matin pluvieux sur le quai de la gare de Blois, un train me ramenant vers le sud, un jeune homme, la casquette vissée sur la tête, tirant avidement sur une cigarette mal roulée, les mains profondément enfoncées dans les poches, arpentait de façon fébrile ce même quai. Puis, brusquement, le garçon s'arrêtait un instant et interpellait d'un ton qui se voulait irriter mais sans vraiment convaincre, un de ses collègues, qui, lui immobile, un casque d'un jaune fluorescent sur les oreilles, le survêtement tendu par un ventre largement rebondi, gardait accroché sur le visage un même sourire, qui semblait tourner vers les étoiles. Le premier, son pas agité soudainement suspendu, lançait de façon répétitive au second, toujours aussi impassible et souriant. « Ne me chauffe pas ! Ne me chauffe pas, je t'avertis aujourd'hui, ne me chauffe pas !» Puis, peu après, plus disert, il ajoutait. « Ne me chauffe pas, hier il s'est passé quelque chose. Ne me chauffe pas, j'ai perdu quelqu'un d'important, je le sais. J'étais à l'enterrement, alors ne me chauffe pas !» Plus loin, des personnages dispersés dans le hall de la gare, comme sur une toile de Magritte, attendaient sans attendre. Ou plutôt, semblaient attendre une heure qui échapperait à l'écoulement continu du temps. L'un, une bande velcro enroulée autour de la jambe de son pantalon, déambulait, pris d'un affairement que l'on sentait sans objet. D'autres s'embrassaient de façon si appuyée que le vieux monsieur, assis à mes côtés, et qui, probablement anxieux, était arrivé là bien avant l'heure de départ de son train, ne pouvait détacher son regard éminemment désapprobateur, quoique intéressé, d'une scène qui aurait frôlé l'impudicité si ses acteurs n'avaient été totalement insensibles à ce qui les entourait. Semblant tout aussi indépendant que les trajets des atomes, tels que les décrit Héraclite avant Impossible Clinamen, et hormis l'étrangeté de certaines de leurs attitudes, ou le fait qu'ils attendaient le même train qui allait les acheminer vers Courcheverny, à un éclat de mélancolie de la clinique de la Borde, tous ces personnages semblaient pourtant liés entre eux par un fil dont il est malaisé de percevoir la fibre. Aucune des conceptions, explorées et répétées à l'envi dans nos espaces professionnels, traitant de l'être ensemble, de la communauté ou du collectif, ne me paraissait à même de désigner avec suffisamment de finesse et de précision ce que je percevais de ce lien à la nature insolite. Je sentais confusément qu'il me fallait changer totalement de plan et de logique, et abandonner ces concepts trop lourds, trop denses, trop problématisés pour décrire la ténuité d'un lien qui mériterait, pour l'évoquer, que l'on emploie en miroir de ce que l'on perçoit, des mots tout aussi légers, fragiles, à l'allure incertaine et pourtant affirmée, des mots qui retournaient comme un gant, à l'envers du sens, rappellerait ce fond énigmatique où se jouent d'aléatoires liaisons. Outre sa ténuité, sa fragilité certaine, son caractère improbable, tendu, semble-t-il, entre des bords qui ne seraient point dérives et que ne relierait aucune logique apparente, ce fil que tisse et le long duquel glissent métonymiquement les mots, ne paraît pas pour autant sans consistance, puisque des personnages y semblent accrochés, ou plutôt suspendus, comme linge sur un fil.
Qu'est-ce que ça fait pour toi de travailler pendant plus d'une semaine ou une semaine, de camper, travailler, manger, tout le temps avec ses artistes, ses collègues qui sont aussi des amis?
Moi, j'ai tendance à valoriser vraiment ce temps-là. Je pense que c'est la condition sine qua non de « sais-tu ». Si on ne vivait pas, mangeait pas, tous ensemble, « sais-tu » serait pas « sais-tu ». Je pense que, enfin, ça donnerait pas du tout ça. Il arrive des bénévoles, des stagiaires, des gens de toute statut, on va dire, un peu défini comme ça, parce que c'est l'organisation collective qui demande à ce qu'il y ait des statuts et des, pour que ça soit quand même plus simple, hein, faut avouer. Mais en même temps, sur le terrain, quelqu'un qui vient à statut, personne ne sait vraiment. Enfin, qui ne connaît pas les gens et qui ne connaît pas la structuration de cette U, personne ne sait vraiment s'il y a un chef là-dedans, ou si c'est plutôt des gens qui discutent entre eux et puis qui se nourrissent les uns les autres, et la technique se nourrit des artistes, les artistes se nourrissent de la technique, et tout le reste de l'équipe se nourrit de tout, enfin, voilà, et tout le monde mange ensemble.
Est-ce que le fait de travailler avec des personnes qui sont des amis proches, ou parfois ta petite copine, c'est quelque chose que tu prends en compte?
Je pense que je le prends en compte de fait. Bon, ces gens sont proches de moi. C'est ma petite copine, c'est mes amis. Je pense que... Mais ça vaut pour plein de métiers. C'est-à-dire que dans le travail, travailler avec sa famille, travailler avec ses amis, c'est compliqué. Mais c'est pas désagréable. La complexité n'est pas désagréable dans la vie, j'admets. Et après, c'est une veille. C'est comme on parlait tout à l'heure de veiller à rester souple. Là, c'est peut-être veiller à un équilibre entre souplesse et rigidité. Je pense que et du coup, j'essaye d'avoir une certaine neutralité dans le travail. On fait tous très attention à ça. Parce que c'est vrai qu'on accueille un groupe aussi de gens qu'on ne connaît pas. Et que si on était... et quand j'entends « on accueille », j'entends pas que les artistes, hein, j'entends aussi le public qui vient. Enfin, on n'a pas parlé de ça, mais c'est quand même... moi, ça fait partie de l'équipe du festival. Un festival n'est pas un festival s'il n'y a pas de public qui vient à ce festival. Donc tous ces gens-là, comme on les accueille, et on essaye de les accueillir tous de la même manière, eh bien voilà, il faut garder, je pense, une certaine neutralité, ce qui n'existe pas. La neutralité n'existe pas, mais absolue en tout cas n'existe pas. Mais je pense qu'on essaye de faire ça. Mais finalement, la neutralité, c'est peut-être accueillir tout le monde comme des amis. Ou, je ne sais pas. Je pense que c'est un équilibre qu'on essaye de maintenir. On essaye d'accueillir tout le monde de la manière dont on aimerait être accueilli quelque part. C'est déjà pas mal.
Cette émission se termine. C'est la dernière de la série, et c'est pour ça qu'elle est un tout petit peu plus longue. Vous avez pu y entendre les textes « Quand la rivière se souvient de la source » d'Yvon Le Maine, un extrait de « Faire communauté » de Patrick Faugéras, et les musiques « La fin de l'électricité » de Yann Arthle-Monnier, « Disaster Radio » de Gravy Rainbow, « Joie de vivre » de Mélène Favennec et « Les gens qui doutent » d'Anne Sylvestre. Merci encore à Thomas Delahaye pour son temps, ses choix et ses jingles. Merci à Guillaume Pellet pour la lecture des textes. Et merci à toute l'équipe, sais-tu.